Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce 7e épisode, il y aura Zach McCracken, Golden Axe de Gambare Goemon, The King of Fighters 2001, 90XX The War Against Destiny et la démo Switchblade du groupe Rebels qui tourne sur Amiga. Bienvenue sur Rétrovision. Toujours un grand plaisir de se retrouver sur Rétrovision avec le dernier épisode de Formule Classique de la saison. Le prochain sera un best-of de la troisième saison avec quelques tests jamais diffusés. Mais pour l'heure, on commence avec un jeu d'aventure, Zach McCracken sur FM Towns, sorti en 1990. Zach est un petit scribouillard qui écrit des articles pour un journal misant sur le sensationnel. Un jour, son patron lui demande de faire un papier sur un écureuil à deux têtes qui aurait été aperçu par des témoins. Et c'est au cours de son voyage que Zach va découvrir que la Terre est menacée par une invasion extraterrestre. Ils se sont même déjà mélangés à la population avec une technique de camouflage indétectable reposant sur un chapeau et une paire de lunettes faunées. Le meneur de cette armée d'invasion intersidérale est aussi le plus grand fan d'Elvis de l'univers. Vous l'aurez compris, Zach McCracken est une aventure complètement barrée, pondue par LucasArts en 1988. C'est l'un des tout premiers point and click avec Maniac Mansion du même éditeur. C'est aussi le deuxième à utiliser le moteur de jeu SCUM, Script Utility for Maniac Mansion. On clique sur l'écran pour déplacer le personnage et une barre comportant un certain nombre de verbes définit les actions que peut effectuer le héros, dont notamment l'association d'objets. Même si Zach est le personnage principal, vous aurez aussi la possibilité de diriger d'autres protagonistes au fil du jeu, voire même des animaux en récupérant un certain cristal. L'aventure vous fait voyager dans différents pays et va même jusqu'à vous faire découvrir la planète Mars. Doté d'un humour dévastateur et d'une très grande durée de vie, de par la multitude de lieux que l'on peut visiter, Zach McCracken est un jeu qui certes a vieilli graphiquement, mais qui reste malgré tout un des meilleurs représentants du genre. Édité par Sega en 1992, Golden Axe 2 est la suite directe du légendaire Beat 'em Up du même nom. Sous-titré The Revenge of Death Adder, ce jeu d'arcade a été développé sur le système 32, tout comme Outrunners que nous avons vu récemment. Comme son sous-titre l'indique, le monstrueux Death Adder veut prendre sa revanche alors que tout le monde le croyait mort et enterré. Et il va une nouvelle fois semer terreur et désolation dans les petits villages de campagne. Vous aurez le choix parmi 4 personnages à la morphologie complètement différente les uns des autres. Sternblade, le guerrier, Trix, le petit jeune, Dora, la centaure, et Goa, un mystérieux géant sur lequel est perché un nain. Au niveau du gameplay, il n'y a pas de gros changements. C'est toujours du bon hack and slash, terme anglais pas très courant à l'époque, caractéristique de combat à l'épée ou toute autre arme de poing. Le système de magie est toujours présent et il est spécifique à chaque combattant. Si la majorité des sorts ont pour but de nettoyer l'écran, celui de Trix fait apparaître des arbres dont les fruits redonnent de la vie. Vous croiserez à plusieurs reprises de nombreuses montures comme des scorpions et des mantes religieuses, disposant d'attaques efficaces et variées, et même des mini-catapultes pouvant être transportées ou déplacées. Autre nouveauté, il est possible de choisir parmi 2 directions à certains moments, histoire de rendre le jeu moins linéaire. Mais ce n'est pas tout, il est aussi possible d'interagir avec des éléments du décor, et certaines séquences offrent des effets zoomés où il faudra éviter des obstacles ou affronter des boss de mi-niveau, dépendant du chemin que vous aurez emprunté. Golden Axe 2 est une excellente suite. Il fait honneur au premier volet avec une très bonne réalisation technique, l'ajout de quelques nouveautés, mais surtout une maniabilité précise et une ambiance héroïque fantasy digne des meilleurs récits du genre. La série des Gambare Goemon est l'une des premières grosses licences de Konami. Elle fut peu connue en Occident malgré une adaptation sur Super Nintendo à la traduction plutôt mauvaise sous le nom de Mystical Ninja. Nous avons choisi de vous présenter le deuxième volet sorti sur Super Famicom en 1993 et qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur de la série. A noter qu'il existe un autre Gambare Goemon, le 2, mais sur Famicom uniquement. La petite séquence d'introduction nous raconte comment Goemon et Ibisumaru, en bon patriote, sont repartis au combat contre le général Maginesu et ses hommes lapins. Ces derniers voulant convertir le Japon aux coutumes débridées, si je puis dire, des pays occidentaux. Tout se déroule à une époque médiévale, ultra humoristique, où il faudra traverser 6 mondes divisés en plusieurs niveaux. Après avoir choisi son personnage, on se retrouve sur une carte où il va falloir arriver au bout de chacune des étapes pour pouvoir avancer et ainsi accéder à la suivante. Ce qui rend ce deuxième opus si attrayant, c'est son système de jeu bien particulier que l'on peut diviser en 4 parties. On commence avec de la plateforme colorée, fluide, disposant d'une maniabilité très précise, où vous aurez l'occasion de manœuvrer des espèces de slugs moyenâgeux complètement délirants, surtout celui avec la pipe. Ensuite, nous avons la traversée des petits villages, idéal pour se refaire une santé ou améliorer son armement. Il est possible de s'amuser à donner des petites taloches aux villageois qui auront une réaction hilarante, surtout à cause de la représentation SD, grosse tête, petit corps. Nous avons ensuite les zones Impact, où vous dirigez un énorme robot, Impact Goemon, et le but est de détruire tout ce qui se trouve sur son passage en esquivant les fossés. Et pour finir, la séquence la plus originale et bien amusante, le combat contre les boss Impact qui se déroule en mode 7. Concentration et synchronisation sont assurément les clés de la victoire pour espérer mener à bien cette bataille. Konami nous prouve une fois de plus qu'ils peuvent exceller sur n'importe quel thème, que ce soit humoristique ou gothique, varié, entraînant, accrocheur, ce deuxième Gambare Goemon est un plaisir vidéoludique à mettre entre toutes les mains. Dans les années 90, tout l'univers des jeux de baston 2D était dominé par Capcom. Tout, pas tout à fait. Dans le petit village SNK, d'irréductibles programmeurs tinrent tête au compresseur nommé Street Fighter. Ils créèrent des séries aujourd'hui cultes telles que Metal Slug, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Showdown ou encore celle dont nous allons parler, The King of Fighters. Cette dernière étant un énorme crossover entre les héros des différents jeux SNK avec quand même des personnages inédits. Là où Street Fighter ne permet aux joueurs de sélectionner qu'un seul personnage, KOF permet de former une équipe de 3 combattants, sélectionnables dans un ordre souhaité. Dès que le premier membre de l'équipe perd, le deuxième prend sa place et ainsi de suite. Dans certains épisodes, on peut sélectionner un quatrième membre appelé Striker qu'on utilise comme soutien afin de finaliser son adversaire avec un enchaînement d'attaques à deux, mais ses interventions restent limitées. Comme tous les jeux de ce type, il faut apprendre à maîtriser les coups de base ainsi que les super attaques en faisant avec le stick des quarts de cercle, demi-cercle, 360 degrés et autres tortures pour les poignets comme les combos qui combinent le tout. Débuté en 1994, chaque année suivie eut son King of Fighters. SNK aura la création de la série jusqu'en 2000 avant d'être racheté par l'éditeur coréen Playmore suite à des soucis financiers, ce qui n'empêche pas The KOF de perdurer jusqu'à nos jours à raison d'un épisode par an. Même si la série se renouvelle peu au fil des épisodes, KOF reste une valeur sûre pour tous les fans du jeu de baston 2D. Édité par Capcom en 1995, 90XX The War Against Destiny est un shooter vertical conçu pour le système d'arcade CPS2. Il fait partie de la célèbre série des 1940, 41, 42, etc. Avant de décoller, 3 appareils vous sont proposés: Lightning, Sinden et le Mosquito, chacun ayant des caractéristiques différentes. Les avions disposent de 3 tirs divergents, une mitrailleuse, un laser et des missiles. Ceux-ci peuvent être améliorés suivant les power-up que vous ramassez. Les bombes, quant à elles, peuvent être amplifiées en maintenant le bouton enfoncé. Une jauge située en bas de l'écran vous indique le palier de puissance que vous avez atteint sur une échelle comprenant 3 niveaux. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi compter sur le tir concentré qui fonctionne sur le principe de la réaction en chaîne et du verrouillage de cibles. C'est-à-dire qu'il est possible d'abattre plusieurs cibles en même temps en combinant avec l'arme secondaire. Ce 1900XX est lui aussi considéré comme le meilleur épisode de la série, avec de beaux graphismes, des musiques de toute beauté, un gameplay plus poussé tout en gardant fidèlement l'esprit original de la saga. Si vous aimez les shooters verticaux et qu'en plus vous êtes amateur de vieux coucous de la Seconde Guerre mondiale, alors la série des 1940 est faite pour vous. C'est déjà la fin de ce 7e épisode. C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Mais bon, on se retrouve dans un peu moins d'un mois avec, comme tous les ans, avant les grandes vacances, le meilleur de la saison précédente, en l'occurrence la 3e, ainsi que des tests vidéo totalement inédits. Alors à très bientôt sur Rétrovision.
We'll be right back.